ça m'avait aussi encouragé à continuer, disons, dans le recherche de la patrimonialisation. Et après, j'ai eu aussi le plaisir d'être dans les jurys de soutenance d'Anaïs Leblond, qui, disons, a mené une recherche au Mali, et dont les contenus et les problématiques de la recherche, ou dans les problématiques de ces recherches, j'ai retrouvé des questionnements qui avaient été aussi les miens au début de mes recherches en Pays d'Ogo. Et donc après, on a eu deux échanges avec Bruno, mais c'était d'une manière assez ponctuelle et intermittente. Mais chaque fois, j'ai retenu, et ça c'est là peut-être, et c'est la raison qui aujourd'hui m'incite à vous montrer un petit court-métrage sur une situation patrimoniale qui est en train de se faire, ou peut-être de ne pas se faire, dans le sud Bénin, et qui revient finalement à ce qu'on dit tout à l'heure Sarah et Anaïs sur cette attention que Bruno Martinelli avait pour le dynamisme de la généalogie patrimoniale, c'est-à-dire essayer de saisir le patrimoine dans son devenir et non, disons, après coup, si j'ose dire, c'est-à-dire une fois que les choses étaient déjà situées, classées, mises en place, même dans ces cas-là, bien entendu, il y a des raisons de se questionner sur la suite. Et je retrouve aussi dans ce qu'on dit Anaïs et Sarah, cette idée donc de la tradition en tant que support d'innovation que j'ai retrouvé dans les souvenirs que j'ai des conversations, des discussions que j'ai eues avec Bruno et qui finalement nous invite aussi à dépasser quelque part cette dichotomie, parfois cette dichotomie trop rigide entre coutumes et traditions inventées, que bien entendu cette dernière c'est une notion qui a été sans doute utile pour les anthropologues, salutaire, mais en même temps peut-être on a un peu trop abusé pour poser des barrières trop nettes entre ce qu'on imagine des documents vivants, authentiques de la tradition et des choses qui sont le produit d'une construction ex novo. Donc aujourd'hui je vais donc vous présenter un cas d'étude qui est en quelque sorte en marge, mais peut-être ne le sera pas longtemps parce que je vais peut-être l'approfondir au cours des prochaines années, de mes recherches sur la route de l'esclave au Bénin. Pour dire les choses d'une manière assez synthétique, donc depuis une dizaine d'années, je travaille sur l'institution d'un projet, mais aussi d'une route. De la longueur de 3,5 km qui va de Ouida jusqu'à la plage. Donc Ouida, c'était un des plus importants ports négriers d'Afrique occidentale. Cette route a été instituée depuis 1994 par l'UNESCO et malgré qu'il s'agit d'un projet UNESCO, cette route n'est pas inscrite sur la liste du patrimoine de l'UNESCO, parce que finalement il y a eu toute une série de frictions, de réappropriations, de tournements de la doxa officielle promue par l'UNESCO de la part de certains entrepreneurs mémoriels, patrimoniaux, touristiques locaux, qui font que l'UNESCO considère que cette route n'est pas assez visible et lisible par des visiteurs qui viennent, comme par exemple les groupes d'Afro-Américains, en quête d'origine et d'une significativité qui ne retrouve pas dans une sorte de superposition de motifs mémoriels qui peuvent paraître contradictoires, paradoxaux, conflictuels, etc. Donc, suite à plusieurs régés que l'ICOMOS pour l'UNESCO a opposé à l'inscription de la route sur la liste du patrimoine mondial, les responsables béninois, donc les comités qui s'occupent au niveau national du dossier et d'inscription, ont pensé d'autres lieux qui correspondaient mieux, qui pouvaient correspondre mieux à certains critères d'authenticité historique et non pas de bricolage mémoriel du point de vue de l'UNESCO, bien entendu. Et donc parmi ces lieux qui sont en train d'intégrer les dossiers que l'État béninois présente à l'UNESCO, il y a l'arrondissement de Savi. Saris, donc aujourd'hui c'est un arrondissement de Ouida qui se trouve à 8 km de Ouida. C'est un gros bourg de 8000 habitants qui a été la première capitale dans le royaume, donc c'était le royaume de Saris, Sa vie, c'est une traduction de Charlie, donc la clé en portugais. Donc c'était la clé qui serta de la côte, finalement, du contrôle de la côte de la part des rois donc, de la dynastie Queda, qui était au pouvoir jusqu'à 1727. Et donc, chaque fois qu'il y avait des convois des captifs qui étaient rasés, par exemple, par les rois d'Abomey, par les troupes du roi d'Abomey dans le nord, il fallait passer par Alada d'abord, qui était un autre royaume indépendant, et par le royaume de Savi, et payer douane au roi de Savi. Donc, c'était devenu une situation intolérable par les rois d'Abomey, qui, entre 1717 et 1727, s'engage dans un conflit de 10 ans avec les rois de Savi, donc opposition entre deux sociétés, deux groupes, les Queda de la côte et les fonds d'Abomey, et en 1727 gagne aussi grâce à, maintenant c'est devenu aussi une sorte de mythe, hein, donc grâce à l'aide de la fille du roi Agaja qui avait été donnée en mariage au roi Ufon de sa vie et qui finalement avait trahi son mari pour privilégier disons la victoire de son père et donc qui avait permis finalement l'occupation de sa vie et donc du Guida qui était le comptoir négrier à l'époque appelé Mlekwe qui signifie la ferme, c'est-à-dire Guida était la ferme de sa vie. Sa vie était la véritable capitale du royaume. Et d'ailleurs, même les comptoirs négriers, les comptoirs des marchands européens étaient basés à Savi et non pas sur la côte. Donc Savi, c'est une cité historique qui aujourd'hui donc, suscite l'intérêt des responsables de la patrimonialisation au Bénin et notamment l'endroit qui suscite l'intérêt majeur, plus important, c'est ce qu'on appelle une forêt sacrée, la forêt sacrée de Yenouzoum, par laquelle les convois d'esclaves auraient transité, auraient été traités, auraient été soignés, auraient été, préparés avant leur dernier voyage vers la côte, donc avant leur embarquement. Et donc cette forêt sacrée est revendiquée comme un lieu, originel finalement, par les Queda, qui considèrent donc ces lieux comme une forêt qui était la forêt de leurs rois, et les fonds qui ont occupé la ville considèrent par contre cette forêt sacrée comme une forêt sacrée fonds et non pas Queda. Et donc, suite à la conquête de fonds, il y a eu nombreuses familles de fonds qui ont colonisé sa vie. Même aujourd'hui, du point de vue démographique, il y a une majorité de fonds par rapport à une majorité de Queda, même s'il y a eu plusieurs mariages. Presque tous les mariages sont mixtes, mais malgré cette mixité dans les mariages, malgré ces brassages, il y a, disons, à cause bien entendu de la descendance patrilinéaire, il y a des familles qui s'identifient au fond, des familles qui s'identifient aux Queda. Et les Queda sont majoritaires du point de vue démographique, et ils sont aussi hégémoniques du point de vue, du pouvoir sur place et du soutien de certains notables et dignitaires. Et dans cette dénommée forêt sacrée, il y a des fétiches, des hôtels qui sont interdits d'accès aux Queda depuis plusieurs siècles et qui sont gérés ou abandonnés, délaissés complètement par les fonds. Et il y a eu plusieurs tentatives de la part d'une élite Queda de Cotonou de réoccuper la forêt à plusieurs reprises sous forme de pèlerinage. Donc on se rend dans la forêt pour honorer les ancêtres, pour honorer leur hôtel. Et finalement, à travers plusieurs négociations, il y a eu l'organisation de deux pèlerinages, comme ils sont appelés aujourd'hui dans cette forêt, mais chaque fois, on a empêché aux Queda d'arriver jusqu'au bout de la visite, c'est-à-dire jusqu'à à la pratique du sacrifice, qui finalement, à travers les sacrifices des animaux, permet leur de se réapproprier d'une manière ou d'une autre de fétiche à travers une logique qui passe mal. Les Queda disent on pourrait essayer de co-gérer les fétiches, co-gérer la forêt, bien entendu. Cette idée d'une logique du cumul, comme dirait Marc Auger, de plusieurs références et de plusieurs éléments, et ne passe pas. Et donc il y a une situation de statu quo, mais plutôt tendue entre Queda et Fon. Je me suis, depuis 2005, je me suis rendu à plusieurs reprises dans la forêt sacrée de sa vie. J'ai rencontré des Queda, des Fon, des représentants de la mairie. Chaque fois, jusqu'à 2012, j'avais une autorisation de la mairie, qui était une sorte de laisser-passer, de blanc-seing, qui me permettait finalement de me rendre dans cette forêt d'une manière relativement, consensuelle de la part des deux communautés, parce que j'avais demandé l'autorisation à la mairie à Ouida. En 2012, pour des raisons de paresse, ou je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas passé à la mairie, et avec les réalisateurs, nous nous sommes rendus à sa vie. En fait, c'était un travail que je considérais un peu à marge de mon travail sur la route. Je me disais, je commence un peu à accumuler des informations en vue d'un travail successif. Et donc, nous avons demandé à cet instituteur à la retraite, qui est le représentant attitré de la communauté Queda à sa vie, de nous promener sur les lieux, qui sont des lieux aussi archéologiques. Il y a un archéologue américain, Kenneth Kelly, qui à plusieurs reprises a pratiqué des fouilles. Ces fouilles ont donné lieu aussi à une exposition des restes de la cité Queda d'antan. Aujourd'hui, ces sites ont été complètement recouverts par la végétation, par manque de financement. Aujourd'hui, ce sont devenus des sites archéologiques ensevelis par la végétation, et toujours dans l'espoir qu'un jour on pourra récupérer à travers de nouvelles fouilles, donc ressusciter finalement des sites et le protéger, donc en espérant bien entendu l'inscription de sa vie, donc de la forêt sacrée et d'autres lieux environnants sur la liste du patrimoine mondial. Donc, je ne vous donne pas d'autres éléments, mais on pourra en discuter par la suite. Je vous montre donc ces courts-métrages qui fait 19 minutes et donc qui relatent donc dans l'entretien que nous avons eu avec donc Pascal Yekamé, qui est instituteur à la retraite, et aussi d'un tour que nous avons fait sur les plusieurs, sur des lieux qui sont en quelque sorte en attente de patrimonialisation. D'une patrimonialisation qui sera peut-être à venir ou qui peut-être n'arrivera jamais, et qui reste en quelque sorte un peu comme des restes qui pourront devenir soit des éléments d'un développement à venir, soit les scories d'une tentative avortée, d'un projet avorté de mise en valeur des lieux. Donc, je m'arrête là pour le moment, mais bien entendu, on pourra reprendre certains éléments par la suite.